VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. La Côte d'Ivoire en deuil au lendemain de la sanglante attaque djihadiste contre la station balnéaire de Grand Bassam. Le gouvernement ivoirien a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les sites vulnérables lors de conseils des ministres extraordinaires aujourd'hui. Les explications de François-Dominique Delafosse, porte-parole du ministre de l'Intérieur, au micro d'Idriss Fall.
Au plan sécuritaire, il y a une déclaration du ministre de l'Intérieur là, qui a été faite tout à l'heure en conseil des ministres. Au sein de ce conseil, nous avons eu plusieurs mesures qui ont été prises. D'abord, le président a décrété 3 heures de deuil national. Ce soir, à partir de 20h, le journaliste s'adressera à la nation. Donc, on attend maintenant le message du chef de l'État ce soir. Donc, les mesures sécuritaires sont là. On a bouclé tous les périmètres qui sont déjà atteints, que ce soit les hôtels, les restaurants. Nous avons aussi bouclé tout ce qui est identification. En ce qui concerne aussi l'identité de ceux qui ont eu à commettre les attaques, le procureur de la République se charge de pouvoir décliner leurs identités, mais ça va, tout est revenu au calme.
Et on avait fait état d'assaillants qui seraient en cavale.
Nous n'avons pas ces informations. Ce que nous avons comme information et qui a été rectifié, c'est bien évidemment qu'on a eu au total de ces attaques qui ont occasionné la mort de 7 civils. 33 personnes sont blessées et 3 terroristes au lieu de 2 terroristes, comme il était annoncé. Et 3 membres des forces spéciales aussi sont décédés. Donc en ce qui concerne les assaillants qui ont fui, non, nous n'avons pas ces informations.
François-Dominique Delafosse, porte-parole du ministre ivoirien de l'Intérieur. L'attaque contre Grand Bassam, première opération djihadiste de ce genre contre la Côte d'Ivoire, a été revendiquée hier par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, et son collègue de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rendent demain à Abidjan pour exprimer la solidarité de la France. Les États-Unis ont de leur côté condamné fermement les attaques terroristes de Grand Bassam et déclarent se tenir prêt à soutenir le gouvernement ivoirien dans son enquête sur cette attaque odieuse, d'après un communiqué dimanche du porte-parole du département d'État, John Kirby. Cela dit, la vie a repris son cours normal à Abidjan aujourd'hui. Au micro de Jean-Roger Bion, le témoignage de Mme Odile Poane. Elle est psychopédagogue à Abidjan.
Oui, l'état d'esprit est très bon. Ce matin, nous avons vu des embouteillages partout et nous sommes tous au travail, la plupart. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en des situations pareilles. C'est le moral qui va montrer qu'on peut surmonter. L'événement est certes dramatique, mais comment on le vit et comment on surmonte cet événement en continuant la vie. Et c'est ce constat qu'on fait aujourd'hui. Un peuple qui a connu une rébellion, qui a connu la guerre, après des élections, 3000 morts, je pense que ce peuple est suffisamment aguerri pour que face à des événements, on puisse encore montrer notre capacité de résilience. C'est ça qui est important, de pouvoir faire face et de continuer la vie en n'oubliant pas ce qui s'est passé, mais en prenant appui pour plus de sécurité peut-être.
Madame Odile Poane, psychopédagogue à Abidjan, Côte d'Ivoire. Présidentiel au Bénin maintenant, l'homme d'affaires Patrice Talon arrivé en deuxième position au premier tour, annonce aujourd'hui avoir fait alliance avec Sébastien Ajavon, troisième dans le scrutin, pour affronter le premier ministre Lionel Zinzou au second tour de la présidentielle. Lionel Zinzou avait remporté le premier tour avec 27,11% des suffrages, Patrice Talon en avait obtenu 23,52% et Sébastien Ajavon, lui aussi un homme d'affaires, avait obtenu 22,07% des voix. Patrice Talon a aussi invité les autres candidats perdants à le rejoindre. Rappelons que les principaux aspirants à la présidence parmi les 33 en lice avaient mis en place une coalition de rupture et s'étaient promis de soutenir le candidat le mieux placé pour barrer la route à Lionel Zinzou, le porte-étendard du parti au pouvoir.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, les résultats officiels du premier tour des élections législatives sont maintenant connus. La CCT, la Cour constitutionnelle de transition, vient de les publier. 45 candidats passent au premier tour, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Quatre candidats des circonscriptions de Bangui figurent parmi les 45 sortis vainqueurs au premier tour. L'analyse des 152 requêtes enregistrées par la Cour constitutionnelle de transition a relevé plusieurs irrégularités dans les opérations, notamment des irrégularités sur des bulletins de vote, changement d'identité de certains candidats, l'absence ou l'insuffisance des bulletins de vote dans certains bureaux de vote, la vente illégale des cartes d'électeurs ou la distribution par des personnes non autorisées, l'empêchement de certains électeurs à exprimer leur suffrage. Conséquence, la Cour a invalidé le vote dans 10 circonscriptions de Bangui et de l'intérieur du pays. Zakarine Douba, président de la Cour constitutionnelle de transition.
Les résultats provisoires qui n'ont pas été redressés ou annulés deviennent définitifs. Article 6 ordonne à l'autorité nationale des élections la reprise des élections dans les circonscriptions où les élections législatives sont annulées.
Le second tour des législatives aura lieu le 27 mars prochain, selon une annonce de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Frimansi Pila, Bangui, VOA Afrique.
Crise au Burundi maintenant. L'Union européenne a officiellement suspendu son aide directe au gouvernement du président Pierre Nkurunziza en réponse aux violences qui secouent le pays et aussi pour pousser les autorités burundaises à dialoguer avec l'opposition. Des détails avec Nani Talani.
La décision a été prise aujourd'hui par les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lors de leur réunion mensuelle à Bruxelles. Premier donateur du Burundi avec une aide globale de quelque 430 millions d'euros pour la période 2015-2020, l'Union européenne a suspendu ses appuis directs, y compris les appuis budgétaires, pour obliger les parties burundaises à trouver une issue à la crise. Bruxelles appelle notamment à la reprise du dialogue inter-burundais conduit sous la médiation de la communauté est-africaine. Toutefois, l'Union européenne maintient intégralement son aide humanitaire. Désormais, Bruxelles financera juste des projets visant à assurer l'accès de la population aux services de base.
Au Cameroun, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à Douala après le décès d'une femme enceinte dans un hôpital dans des circonstances non élucidées, ce qui a déclenché une polémique sur la prise en charge des malades. La mort samedi matin de Koumateke Monique, 31 ans. Enceinte de jumeaux, a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Sa famille accusant le personnel soignant de l'hôpital La Quintini, un des plus importants de la capitale économique camerounaise, d'avoir refusé de la prendre en charge et d'être donc responsable de sa mort. Égypte maintenant, Human Rights Watch a appelé aujourd'hui le gouvernement égyptien à protéger la liberté d'expression et à annuler les peines de prison infligé à 4 adolescents chrétiens coptes condamnés pour outrage à l'islam, après avoir parodié dans une vidéo une scène de prière. Le 25 février, un tribunal correctionnel de la ville de Minia, dans le centre du pays, avait condamné 3 des adolescents âgés de 15 à 17 ans à 5 ans de prison, tandis que le 4e âgé de 15 ans avait été condamné à être placé dans un centre de détention pour mineurs pour une durée non déterminée. Après ce verdict, les jeunes adolescents n'ont pas été arrêtés. En Turquie, attentat meurtrier à Ankara, la capitale. La police a arrêté 4 suspects aujourd'hui dans la ville de Sanliofa. L'attentat à la voiture piégée a fait au moins 36 morts. Personne n'a revendiqué l'attaque, mais les autorités turques pointent du doigt les rebelles kurdes. Maïli Segel.
Les États-Unis ont fermement condamné cette attaque et réaffirmé leur partenariat solide avec la Turquie dans le combat contre le terrorisme, selon le porte-parole du département d'État, John Kirby. L'ambassade des États-Unis en Turquie avait alerté vendredi ses ressortissants sur une possible attaque terroriste visant des bâtiments du gouvernement turc. Cet attentat à la voiture piégée est le deuxième en moins d'un mois à Ankara. La police a arrêté 4 suspects grâce à une information indiquant que le véhicule utilisé avait été acheté dans le sud-est de la ville. Le mode opératoire rappelle celui de l'attentat perpétré le 17 février, revendiqué par un groupe kurde dissident du PKK, les Faucons de la Liberté. Quelques heures après cette attaque, une dizaine de chasseurs-bombardiers ont pilonné les bases des rebelles kurdes dans les montagnes de l'extrême nord irakien. Depuis l'été dernier, de violents combats ont repris entre les forces de sécurité et le PKK dans de nombreuses villes du sud-est, peuplées en majorité de Kurdes.
On termine avec le conflit en Syrie. Les négociations indirectes entre le régime du président syrien Bachar Assad et l'opposition ont commencé aujourd'hui à Genève en Suisse pour tenter de mettre fin à une guerre qui entre dans sa 6e année. À la veille de ces pourparlers, les chefs de la diplomatie française et américaine ont lancé un appel au respect de la trêve sur le terrain et à l'accès de l'aide humanitaire aux zones assiégées. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.